D'abord, juste un mot sur les sources. Vous avez signalé que j'avais réduit la durée de ma communication entre 1916 et 1918. J'avais réduit, non, j'avais voilà, de 1416 à 1418, enfin, de 1418 à 1416 plutôt. C'est tout simplement parce que j'ai travaillé sur les archives Samba, et c'est-à-dire sur la correspondance reçue par Marcel Samba, ministre des Travaux publics, jusqu'à sa démission, enfin, jusqu'en décembre 1916. Donc c'est pour ça que j'ai modifié la date. Et d'ailleurs, c'est le souci de respecter ces sources qui m'a, qui d'ailleurs me laisse penser beaucoup de la même façon que Monsieur Bonzon et Madame Bock sur ce que les socialistes écrivent, mais pas seulement sur en fait l'ensemble des lettres qu'ils reçoivent. Donc, je suis entré donc dans l'histoire de la guerre moi par l'histoire de la minorité socialiste. C'est pour ça que je me suis intéressé à Bartas et j'ai eu par hasard la chance de trouver dans les archives Samba, hein, qui sont considérables, hein, ça fait énormément de lettres. La lettre de Bartas, mais je pense qu'il y en a encore d'autres. J'en suis quasiment persuadé, mais il n'y a pas que celle-là, il y en a aussi d'autres d'auteurs plus célèbres comme Marcel Mauss ou d'autres. Et l'idée, à travers l'étude de la minorité socialiste, c'était d'étudier les rapports entre politique et guerre, c'est-à-dire et de répondre de cette manière aux questions de Monsieur Pro, c'est-à-dire à la fois est-ce que la guerre a changé les convictions politiques des hommes et d'une certaine manière les hommes. Et là, j'avoue que sur la question de la brutalisation, je suis d'accord avec vous, puisque je travaille sur la naissance du Parti communiste, et là-dessus, je n'arrive pas à l'utiliser comme concept opératoire. Donc ensuite, j'irai sur la question de la délégitimation du conflit, c'est-à-dire sur la nature idéologique, sur le pan idéologique de la délégitimation du conflit. À mon sens, peut-être qu'on peut en faire l'hypothèse, elle est relativement peu présente dans les tranchées, évidemment, puisqu'on reçoit peu de littérature idéologique, littérature militante socialiste, c'est difficile d'en recevoir. Par contre, plus, c'est peut-être une hypothèse, plus on s'éloigne du front, plus la délégitimation idéologique du conflit, qui est parfois appuyée sur une expérience directe du conflit, augmente. Et je donnerai pour exemple des militants comme Boris Souvarine, comme Alfred Rosmer, comme Marcel Martinet, qui ne sont pas mobilisés, mais qui sont mobilisés à l'arrière, ou qui sont mobilisés dans la préfecture de Paris, etc., qui, eux, ont tout de suite une dimension idéologique importante de leur délégitimation, et qui peut aussi s'appuyer sur une expérience, un deuil, la mort du frère de Souvarine, par exemple. Pour revenir à la question donc, des documents qui sont révélés par Thierry Bonzon et Fabienne Bock, en fait, j'ai donc travaillé, moi-même, j'ai laissé de côté complètement l'étude de ce que j'appelle le système D, enfin, après Georges Dumoulin, de ce que Georges Dumoulin, donc le syndicaliste CGT, appelle le système D, mais j'ai consacré toute une partie de mon travail à ce thème, et je retombe de façon assez intéressante sur les conclusions que vous avez. D'abord, enfin, il y a juste des petits détails, c'est-à-dire que, par exemple, la numérotation des lettres que vous signalez, Blum, en fait, Léon Blum, c'est lui qui s'occupe du courrier de Samba, forcément, il est son chef de cabinet, et il les numérote, en fait, systématiquement dès 1914. Ensuite, vous avez, si je me souviens bien, dit que c'était lié au droit de pétition, c'est aussi lié, en fait, à l'histoire des petits pistons ordinaires que les députés donnent à leurs militants avant 14. Et en fait, j'ai travaillé sur le fond Jean Loquin, qui est député de la Nièvre, et Charles Dumas, qui est chef de cabinet de Guesde. Et en fait, avant 14, il y a déjà ces lettres qui arrivent. Et la pratique continue, en fait, tout simplement après 14. Et là, j'ai aussi, là, sur la question de la forme républicaine du gouvernement, je suis, à mon avis, enfin, totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est fondamental. Il y a un attachement très net à cette forme républicaine et également la question de l'inégalité des sacrifices, c'est constant, c'est permanent et évidemment il y a un ressenti très fort par rapport à ça. Et enfin sur la question je dirais qu'il y a une permanence de la plainte, une revendication récurrente de l'égalité, ça c'est certain. Avec et là je vous rejoins aussi dès 1915, en même temps, l'annonce de ce que beaucoup de soldats appellent le grand règlement de compte, c'est-à-dire on vous verrez après la guerre ce qui va vous arriver, à vous qui nous avez trahis, qui nous avez sacrifiés, etc. Et il y a effectivement, très rarement, mais il y a des menaces même de mort, hein, parfois contre Marcel Samba, qui était promis à la guillotine par des groupes de soldats qui signaient un groupe de soldats de tel endroit, ou alors on va te faire péter à la grenade, etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de. Ils utilisent vocabulaire. De la pratique du combat qu'ils appliquent à la trahison de leurs états-majors. En fait, il y a tout un vocabulaire, enfin, toute une tout un complot des états-majors syndicalistes et socialistes contre, enfin, qui ont sacrifié leurs troupes à la guerre. Sur la menace du carnet B, en fait, elle a été appliquée un tout petit peu dans les départements du Nord. Il y a eu effectivement des arrestations de militants qui étaient inscrits sur le carnet B, mais on les a pas. Ils ont vite demandé d'être envoyés au front, mais il a été quand même un tout petit peu appliqué dans les départements les plus menacés par l'invasion au début de la guerre. Ensuite, c'est vrai, donc, et dernière petite chose, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est la question des officiers. Vous avez posé la question des officiers. Alors effectivement, il y a plusieurs catégories, je dirais, d'officiers. Ceux qui sont vraiment animés par un refus de parvenir, il y a Pierre Monat, hein, qui va toujours refuser un certain nombre de prendre du galon. Dumoulin, c'est le cas. D'ailleurs, il va beaucoup critiquer le capitaine Train, en particulier, donc Albert Train. Barthas, c'est le cas, Renaud Jean, c'est le cas. Donc il y a cette première catégorie de militants, je dirais, socialistes avant la guerre, et qui ont refusé de prendre du galon, ou alors qui ont refusé de l'afficher, pour respecter leurs convictions. Et j'ai aussi trouvé, on pourrait aussi poser la question dans le rapport des médecins à leurs soldats, enfin aux soldats qui soignent, en particulier avec un médecin dont j'ai trouvé une lettre qui réclame, lui, de rester le plus proche de ses troupes, ce qui n'est pas toujours des hommes qui soignent, pour les imiter, en quelque sorte, pour rester avec eux. Ce n'est pas le cas de tous. Et en même temps, il y a aussi cette question des officiers sortis du rang, qui vont pratiquer par leurs propres valeurs. Oui, je termine. Et donc Vaillant-Couturier, Train et Cellier, et ça pose directement la question de savoir comment est-ce que l'apprentissage de la guerre et la montée dans le rang de ces soldats va influencer leur conception de la discipline politique et en particulier leur adhésion au communisme ensuite, puisque Train et Cellier vont être quand même secrétaires généraux du PC au milieu des années 20. Voilà.
Nous ne parlons le français